Bonsoir. Selon un rapport parlementaire, plus de 140 millions de dollars américains débloqués par le fonds de promotion de l'industrie FPI entre 2008 et 2014 sont toujours détenus par des débiteurs. Ce rapport indique que la majorité d'insolvables sont notamment des ministres, des députés nationaux et certaines personnalités. Les parlementaires enquêteurs révèlent que 70% des projets financés par le FPI pendant cette période n'ont pas été réalisés et que d'autres sont tout simplement fictifs. Quelle analyse faire de ce rapport et pour en parler? Je reçois François Mpuila. Bonsoir Monsieur Mpuila.
Bonsoir.
Vous êtes fondé de pouvoir principal et responsable études et analyses au FPI. Merci d'être venu. Ernest Mpararo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Mesdames et messieurs, bonne année 2016 et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus de 140 millions de dollars américains du fonds de promotion de l'industrie sont entre les mains de ces débiteurs insolvables. C'est ce que révèle le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de ce service de l'État. Plus d'explications dans cet entretien entre Innocent Olinga et Berry Franklin Luchaka.
Innocent Olinga, bonsoir.
Bonsoir Berry.
Plus de 140 millions de dollars américains du FPI qui sont détenus par les débiteurs. D'où tirez-vous ces chiffres?
En fait Berry, ce n'est pas nous qui avançons ces chiffres et tous les commentaires afférents. C'est plutôt les rapports d'enquête parlementaire sur la gestion du FPI, fonds de promotion de l'industrie. Rapport qui a été déposé récemment au bureau de l'Assemblée nationale et qui attend d'être débattu en plénière. Dans ces rapports, les parlementaires enquêteurs dénoncent les détournements des fonds du FPI par les promoteurs des projets. Ils dénoncent également les laxismes et la complaisance dans les chefs des responsables du FPI. Et ces parlementaires enquêteurs révèlent que 70% des projets financés par l'FPI entre 2008 et 2014 ne sont pas réalisés et d'autres sont tout simplement fictifs et que les fonds perçus ne sont jamais remboursés par les promoteurs.
Alors, Innocent, vous dites qu'il parle des projets non réalisés et des projets fictifs. Est-ce que vous pouvez expliciter un tout petit peu?
Oui, Berry, concernant les projets non réalisés, soit les promoteurs les ont débutés, mais n'ont pas abouti au résultat attendu pour certaines difficultés réelles ou supposées, soit les promoteurs ont affecté les fonds perçus à autre chose qui n'a rien à voir avec les projets présentés au FPI. Ces cas sont les gens, par exemple, une dame qui a perçu près de 3,3 millions de dollars pour implanter une usine de cartons d'emballage alimenté depuis août 2014, mais lorsque la commission d'enquête parlementaire est descendue à l'adresse donnée de cette cartonnerie et n'a rien trouvé. Mais les rapports de supervision du FPI a donné à ces projets un taux d'exécution de 70%. Et un autre exemple, Berry, c'est un cas de projet fictif. Une dame a bénéficié d'un prêt de 1,185 million de dollars américains pour l'implantation d'une usine de production des articles en plastique à Ngaliema. Et faute d'indication précise de l'adresse de l'usine d'Ngaliema, la commission d'enquête s'est rendue au siège social de la société de cette dame renseignée dans les contrats au quartier Beaumarchais. Et là, la commission n'a pas trouvé cette dame un hôtel nouvellement construit au nom de cette dame. Vous comprenez à quoi a servi cet argent. Et il y a aussi un ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Mouzito qui a fait la même chose. Il a pris l'argent du FPI, 300 000 dollars pour l'achat d'une chaîne de minoterie à Lubumbashi, mais il a construit avec cet argent un immeuble qu'il a mis en location. Mais comble de tout ça, Berry, il ne rembourse pas l'argent emprunté au FPI.
Alors, mais pourquoi le FPI ne traduit pas toutes ces personnes en justice?
Mais c'est là où les parlementaires notent qu'il y a complaisance du comité de gestion du FPI dans les choix des promoteurs des projets. Les comités du FPI indiquent les rapports à privilégier l'octroi des crédits aux politiques et autres amis au détriment des véritables entrepreneurs.
Innocent Olinga, merci beaucoup.
Merci Berry.
Merci messieurs Innocent Olinga et Berry Franklin Luchaka. Monsieur Mpuila, je rappelle que vous êtes fondé de pouvoir principal et chargé d'études et analyses au FPI. Plus de 140 millions de dollars américains débloqués par le FPI entre 2008 et 2014 sont toujours détenus par des débiteurs. Comment avez-vous reçu ce rapport au niveau de votre institution?
Merci beaucoup, mon frère, pour la question que vous nous posez. Entrer dans le danger, je crois qu'il y a des petites précisions que nous voulions donner. Le rapport en question, c'est un rapport de la commission parlementaire qui a travaillé au Fonds de promotion de l'industrie. Et à ma connaissance, je sais que le rapport a été distribué au niveau de la représentation nationale. Comme vous le savez, ce rapport n'a pas encore été discuté.
En plénière.
En plénière, merci. Je suis mal à l'aise de vouloir faire, de discuter de ces rapports à ces niveaux, mais je crois que les éléments qui sont soulevés, nous pouvons essayer d'en débattre. Je crois que le rapport est au niveau de la représentation nationale, mais nous pouvons nous livrer à ces débats pour essayer un peu d'éclairer certaines choses. D'entrée dans le jeu, je crois, vous parlez du montant de 140 millions, mais vous dites que c'est entre 2008 et 2014. C'est déjà biaisé.
Ce n'est pas moi qui en parle, c'est le rapport.
Ces montants, lorsque vous venez dans les livres du Fonds de promotion de l'industrie, vous renseignez les impayés depuis 1989 jusqu'à ces jours. Ce n'est pas 2008-2014. C'est tendancieux de présenter les éléments de cette manière.
Et donc le rapport parlementaire est déjà biaisé à ce niveau-là?
Je crois bien, parce que au niveau de la gestion du portefeuille, nous savons que ce montant qui est présenté, c'est un stock de 25 ans d'impayés.
Et nous les 140 millions.
Les 140 millions. Mais ça n'entre pas dans la tranche de 2008 à 2014. Si nous faisons la tranche de 2008 à 2014, le montant sera inférieur à celui-ci.
Et donc, voilà, ceci étant dit, il y a des griefs qui sont retenus contre le FPI dans ce rapport, la non-réalisation des projets d'investissement dans le chef d'un bon nombre des promoteurs d'industrie pourtant bénéficiaires des crédits, la gabegie financière, et dans le rapport, par exemple, on donne un exemple, je vais vous lire un extrait, en parlant de gabegie financière, que M. l'ADG, dont la générosité exemplaire n'égalant aucun autre mandataire public, pouvait aller à offrir à certains de ses protégés des rétro-commissions et à d'autres allouer des frais d'émission exorbitants, même à ceux qui sont absents du pays au moment de la mission. Tenez, pour une mission de 3 jours à Kisantu, par exemple ici au Congo central, M. l'ADG remettait à chacun des agents 10 000 dollars américains au titre des primes d'émission dont l'opération retour était assurée. Comment vous expliquez un peu tout ça?
C'est très facile de dire des choses comme il se présente. Je crois que lorsque le Fonds de promotion de l'industrie avait été mis en examen et qu'il devrait donner les éléments de réponse par rapport à tous ces éléments que vous venez de lire, les explications ont été données. Les travaux de Kisantu n'ont pas fait une journée comme on l'a dit. Je faisais partie de cette équipe. Il a été demandé par les responsables de l'Ecofir, je peux y citer son nom, le professeur Mokoko Samba qui était ministre des Budgets. Il avait demandé qu'on puisse réfléchir sur la possibilité de transformer le Fonds de promotion de l'industrie en une banque de crédit et d'investissement industriel. Il avait été demandé qu'on puisse recruter un consultant. Et le consultant, la facture qu'il avait présentée, elle était très exorbitante. L'autorité avait demandé qu'on puisse faire une réflexion en interne. Si ma mémoire est bonne, je crois que le montant qu'a demandé le consultant pour ce travail a iré jusqu'à 900 000 dollars. Et on avait estimé que la République ne pouvait pas débourser une telle somme. On a mis sur pied une équipe d'experts des fonds de promotion de l'industrie qui ont travaillé. Et nous sommes allés à Kisantu, si ma mémoire est bonne, plus de 5 fois. Et par mission, on pouvait faire 4 jours, 6 jours. Et c'était un nombre important des jours et non pas un jour comme on l'a présenté. Je ne sais pas, j'ai amené les éléments qui ont été produits à ce sujet. Vous avez ici la note stratégique qui devrait éclairer le ministère de l'Industrie et le gouvernement qui a été produit par ces travaux et vous voyez la qualité de ce travail. Vous voyez les projets de transformation qui a été produit par ces groupes d'experts au niveau de Kisantu. Vous voyez ici, nous avons le plan stratégique qui a été produit. Nous avons fait aussi le contrat programme. C'est vous dire que si réellement le travail que les experts du Fonds de promotion de l'industrie ont fait en plusieurs jours avait été laissé aux consultants qui étaient initialement prévus de faire ce travail,
ça aurait coûté plus cher.
Ça devrait coûter dans les 900 000 que ces consultants prétendaient.
Et donc, selon vous, il n'est nullement question de gabegie financière.
Je puis vous le démontrer. Lorsque vous faites l'analyse coût-bénéfice, vous faites l'analyse de moyens, vous allez vous rendre compte, entre payer 70 000 dollars au groupe de travail interne qui a travaillé sur plusieurs jours, j'ai dit, nous sommes allés à Kisantu, je crois, 4 à 5 fois. Donc, et quand vous faites la moyenne de 4 à 5 jours, on n'a pas travaillé dans une journée.
Donc, au lieu de 70 000, au lieu de payer 900 000, c'est mieux de payer 70 000.
On a payé 70 000. Nous pensons que c'est raisonnable.
Alors, il y a un autre grief, je cite un extrait du rapport, je cite, le non-respect des dispositions pertinentes de la loi des finances publiques et de la loi relative aux marchés publics en rapport avec la procédure à suivre pour la passation des marchés publics au FPI. Les marchés de fourniture se réalisent de gré à gré et les acquisition des biens effectués ne cadre pas avec les prévisions arrêtées dans le budget. Fin de citation. Qu'est-ce que vous y répondez?
Merci beaucoup. Je crois que nous nous livrons à cet exercice qui a été déjà fait par le Fonds de promotion de l'industrie. Je crois que ces questions ont été posées aux responsables du Fonds de promotion de l'industrie et leurs collaborateurs. Les éléments de réponse ont été posés.
Ont été donnés.
Et si nous pouvons y revenir, nous pouvons vous dire. En ce qui concerne la gestion budgétaire au Fonds de promotion de l'industrie, cette gestion budgétaire n'est pas faite aléatoire. Ça suit la procédure normale, dès l'élaboration des prévisions jusqu'au niveau de l'exécution de ces budgets. Et ces budgets est sous contrôle permanent. Et sous contrôle permanent de CSP qui accompagne les FPI dans la réalisation de son travail. Mais si aujourd'hui nous pouvons à ce niveau ici retenir le fait qu'on parle de la gabegie financière, je crois que le rapport que nous n'avons pas eu jusqu'ici, parce que nous l'avons pas, parce que je suis là, je suis en train de débattre sur les questions que vous posez, et je crois que nous sommes mal à l'aise de débattre sur un rapport qui nous a pas été transmis officiellement, mais qui a été distribué au niveau de la représentation nationale.
Alors, avant que je ne donne la parole à Ernest Mpararo, très rapidement, comment vous expliquez qu'il y ait des gens, des compatriotes qui aient reçu de l'argent et qui n'ont pas fait le travail pour lequel ils ont reçu cet argent et qui n'ont jamais rendu compte?
Merci beaucoup. Je crois que ça, c'est une question sur laquelle nous pouvons nous étendre suffisamment et donner des éléments d'explication à nos auditeurs.
C'est pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs.
La première chose, si nous pouvons regarder aux procédures des fonds de promotion de l'industrie, nous ne faisons pas des financements à la tête du client.
Ni aux politiques, ni aux députés, ni comme ça, c'est dit dans le rapport.
Je n'aimerais pas répondre de cette manière-là. Je prends par exemple quand vous dites aux politiques et aux députés.
C'est le rapport qui le dit.
Lorsque un promoteur se présente au fonds de promotion de l'industrie, il y a des instruments qui sont censés être déposés. Lorsque vous regardez dans nos conditions, on vous demande que vous puissiez donner les numéros des registres de commerce. Les numéros des registres de commerce, ce n'est pas le fonds de promotion qui l'octroie. C'est d'autres structures de l'État habilitées à le faire qui le font. L'identification nationale, ce n'est pas les fonds de promotion de l'industrie qui l'octroient. Il y a des structures à ce niveau-là. Et nous recevons les entreprises du droit congolais au financement du fonds de promotion de l'industrie. Si, d'aventure, quelqu'un qui avait été ou qui est devenu par après politicien ou député, nous avons jugé son dossier sur les éléments requis pour être financé. Et nous ne pouvons pas venir ici tabler pour dire vous avez financé les politiciens. Nous avons financé une entreprise du droit congolais qui rentre dans nos conditions de financement. Si vous pouvez nous permettre de vous les lire, on peut vous lire nos conditions de financement.
Voilà, on y revient tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Ernest Mpararo, et je crois que les auditeurs auront compris que nous avons un peu monopolisé la parole pour donner plus d'éclaircissement d'entrée de jeu. Ernest Mpararo, vous êtes président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Comment vous analysez ce rapport parlementaire?
D'emblée, je commence d'abord à féliciter la commission parlementaire pour avoir produit un rapport qui nous éclaire tous sur tout ce que la LICOCO ne cesse de dénoncer, la mauvaise gouvernance, la corruption et le détournement des deniers publics. Je tiens d'abord à féliciter l'honorable Jean-Baptiste Koumassamba, président de la commission, pour avoir produit un tel rapport. Mais cela, le rapport ici doit être une leçon pour nos dirigeants, pour leur dire, écoutez, est-ce que nous choisissons de diriger comme ce que le FPI fait, ou nous devons changer les choses? Et en lisant les rapports, vous allez constater, premier point, lorsque les dossiers étaient en ébullition au Parlement, il y a un nouveau gouvernement qui est entré, et subitement, c'est le ministre de l'Industrie lui-même actuel, M. Germain Kambenga, qui va aller au FPI prendre des crédits pour $550,000.
Il est cité dans le rapport.
Il est cité dans les rapports. Les ministres, ils entraient en fonction. Le lendemain, il est parti. On lui a donné 550 000. Ça frise un peu. Or, les rapports, le ministre a des frais de fonctionnement. Il lançait une campagne. On ne sait même pas si la campagne a été un succès ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a contrôlé. Même le FPI. Le FPI est incapable de contrôler les ministres de l'Industrie. Il n'est pas le seul. Dans les rapports, on cite Kinke Mulumba, qui est ministre au gouvernement actuel. On cite le ministre des Hydrocarbures. On cite le sénateur Chirubagala. On cite l'ancien ministre de l'Intérieur que vous aviez cité. On cite d'autres personnes. Mais je pense que nous, au niveau de la LICOCO, le premier ministre qui nous dit aujourd'hui, chaque jour, qu'il veut vraiment stabiliser ou réduire les dépenses, il devrait déjà demander à tous ces ministres qui sont en fonction aujourd'hui, soit d'être suspendus ou de payer l'argent du FPI. D'ailleurs, nos amis du FPI doivent être très contents parce qu'ils nous disent que c'est depuis des impayés de 25 ans. Donc, le rapport vient de soutenir pour leur dire, écoutez, ah, c'est une chose, on le disait depuis très longtemps, mais les parlementaires nous aident à faire payer tous ces débiteurs, tous ces insolvables qui sont des ministres et des députés. Alors qu'il y a de vrais compatriotes qui ont des projets, mais qui manquent de financement. Si vous partez en province, il y a beaucoup de compatriotes, il y a beaucoup de Congolais qui ont de vrais projets qu'on ne finance absolument pas. Mais on cherche à financer des politiques parce qu'on y tire des avantages politique.
Mais vous avez suivi, François Mpuila, relever certains éléments, donner des réponses à d'autres éléments évoqués dans le rapport. Il dit pratiquement que le rapport, qui aurait presque un peu beaucoup d'incohérences dans certaines affirmations apportées dans le rapport par rapport aux procédures connues au FPI.
Vous savez, les rapports ici, avant d'être distribués, ces rapports ont traîné au Parlement plus de 6 mois. Et ce n'est que le 18 novembre de l'année passée que le président de l'Assemblée nationale, parce que dans les coulisses des membres de la commission, on soupçonnait aussi que le président de l'Assemblée nationale avait pris un crédit. En vérifiant, on a constaté que le président de l'Assemblée nationale n'a jamais pris de crédit. Et c'est comme cela que le président va demander à ce qu'on puisse distribuer ces rapports à tous les députés pour que, à la session prochaine du mois de mars, pour qu'on vienne discuter de ces rapports au sein de la plénière. Mais ce que les gens du FPI disent, ils le disent pour se justifier. Mais on les a interviewés, il y a toute une liste, les PCA. Les DG,
les syndicats.
Tous les syndicats, tout le monde a été interviewé. Ils ne peuvent pas se justifier aujourd'hui. Ils doivent accepter, ils doivent assumer les responsabilités. Ce n'est pas notre frère Mpuila qui va assumer, mais c'est le conseil d'administration et le comité de gestion. Donc les comités de gestion du FPI doivent assumer. Si aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que nous souhaitons, on puisse traduire tous ces gens en justice, ils doivent assumer. Chacun doit assumer ses actes. Ils ont posé des actes, ils ne peuvent plus se dédouaner par rapport à ces actes-là. Vous voyez dans les rapports, on a donné des fonds à des personnes qui ont disparu. Et lorsqu'on demande aux gens du FPI, ils ont fait des rapports bidons pour dire, écoutez, le projet est exécuté à 70%. Mais lorsqu'on part sur le terrain, on rencontre la personne, un Libanais, qui a fui, qui n'est même plus ici. Alors, comment est-ce qu'on va récupérer l'argent? Donc, ce sont des actes que les amis du FPI doivent accepter. Chaque personne doit accepter des actes posés. C'est ça la gestion.
En d'autres termes, Ernest Mpararo, ce rapport présente une cartographie selon laquelle la corruption s'est érigée en véritable système.
Effectivement, c'est ce que nous disons. Tous les grands projets que vous avez, que ce soit le FPI, vous avez suivi la fibre optique, vous avez suivi l'hôtel du gouvernement, vous avez suivi les projets des Chinois, vous avez suivi même les parcs agro-industriels de Bukangalonzo, vous avez suivi qu'il y a même l'achat des tracteurs, vous avez suivi dans les temps. Donc, tous les grands projets en RDC est caractérisé par une corruption ou un détournement énorme. Donc, c'est comme ça que nous, au niveau de la LICOCO, nous ne cessons d'interpeller les chefs de l'État pour qu'ils puissent prendre des mesures contre tous ces gens-là qui détournent, qui fraudent et qui s'adonnent à la corruption.
Israël Moutala, vous êtes journaliste, analyste économique et politique. À votre tour, comment vous avez reçu ce rapport? Vous avez suivi tout à l'heure François Mpuila et vous venez de suivre Ernest Mpararo.
Beaucoup de déceptions, beaucoup de gâchis. Pour moi, la bonne gouvernance doit être la norme dans ce pays pour que les objectifs de l'émergence soient atteignables. Mais on comprend bien que nous sommes dans un environnement d'affaiblissement total de l'État. Si les individus peuvent se permettre tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec l'argent public, parce que je rappelle que le FPI est financé principalement par une taxe de promotion de l'investissement. Et donc, chaque fois qu'il y a des produits qui entrent ici ou qui sortent, certains produits, il y a une taxe qui est perçue et qui va dans le compte du FPI. Il y a même des productions locales ici qui sont taxées et voilà. Et donc, in fine, ce sont des produits, cette taxe est impactée dans le produit ou le bien qui est vendu au peuple congolais qui est déjà pauvre. Et donc, si cet argent, vous remettez dans des mains aussi inexpertes, avec autant de légèreté, ça ne va pas. Donc, l'environnement global de la gouvernance est mauvaise. Donc, il faut vraiment des réformes structurelles. Ça veut dire que tout ça, ça montre quoi? Ça montre que la justice ne fait pas son travail. Je vois le procureur général de la République faire des déclarations, mais il y a du travail dans ce pays. Il y a du travail. Où est la justice dans ce pays? J'aimerais bien que la justice se dise, moi je me saisis d'office et j'ouvre une information judiciaire. Voilà des vrais dossiers. Au lieu de supputer sur tel ou tel autre article de la Constitution, voilà du concret. Et les dames dont on a parlé ici, voilà, il y a beaucoup. Quelle est leur identité? C'est vrai que je comprends M. Mpuila. La chape politique est tellement forte sur le FPI que vous pouvez mettre n'importe quel mandataire dans ces conditions.
Il ne s'en sortira pas.
Voilà pourquoi on dit que le véritable obstacle à ce pays, c'est l'absence d'une volonté politique résolue pour justement faire bouger les choses. C'est tout. Vous mettrez n'importe qui dans les conditions actuelles de nos entreprises publiques et des établissements publics, il n'y aura pas de bons résultats parce que la justice est absente. Les structures d'identification des personnes sont absentes. Les gens peuvent fabriquer des fausses sociétés parce qu'on n'a pas un service compétent en termes d'identification de personnes. On n'a pas un bon cadastre. On a des fausses adresses. Et voilà, je suis allé chercher une attestation de résidence. C'est ce que moi j'ai dit à l'officier qui était devant moi, qui a été acté. On m'a délivré une attestation de résidence. Donc je pouvais donner n'importe quelle adresse. Et donc, travaillons sérieusement aux choses. Autre chose, c'est que le FPI, c'était un instrument formidable dans sa conception pour justement essayer de créer un tissu industriel dans le pays. Et donc, c'est un instrument formidable. Nous sommes dans un pays de crise où les ressources financières sont rares. Et donc, il faut utiliser chaque franc congolais avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux, et il faut qu'il y ait la rigueur d'un banquier, la rigueur d'un privé. Mais une telle gestion est impossible. Moi je, la situation du FPI n'est pas une situation isolée. Et c'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, on est sur un dossier du FPI, mais c'est presque pareil dans toutes les entreprises publiques. Clientélisme, détournement, corruption, c'est partout. Vous avez des mandataires hors mandat, vous avez des mandataires qui n'ont pas le profil. Mais qu'on audite, que chaque année, ils doivent avoir des comptes certifiés et audités, par exemple, par PricewaterhouseCoopers. Et vous verrez le sérieux. Et après, s'il n'y a pas des états financiers conséquents ou qui sont sains, qu'on sanctionne les mandataires, qu'on les envoie en prison et tout ça. Non. Ici, on a dit, on s'est attaqué aux petits bandits. Mais ça, c'est un grand banditisme. Mais là, je dis, nous avons un environnement extrêmement pollué sur le plan de la gouvernance et qu'il faut une volonté politique affirmée, résolue pour terrasser ce monstre.
J'aimerais avoir votre commentaire, Israël, sur cet autre extrait du rapport. Je cite, « Les subventions accordées pour les recherches scientifiques appliquées aux innovations sont exécutées en des montants exorbitants alors que les bénéficiaires n'en touchent effectivement que moins de la moitié du montant agréé et débloqué. » Fin de citation.
Moi, je respecte beaucoup la filière recherche scientifique. Mais moi, je ne pense pas que, dans le cas de la RDC, nous ayons d'abord les moyens de faire de la recherche pour que le fruit de cette recherche soit appliqué et nous donner une plus-value. Je pense que d'abord, j'ai pas lu tous les rapports stratégiques du FPI, mais on devait d'abord se concentrer sur des besoins alimentaires, sur des besoins des industries qui sont en souffrance parce qu'ils ont été pillés. Donc, renforcer d'abord les tissus qui existent et puis créer des nouvelles selon des filières bien établies. Mais moi, je pense d'abord qu'aller dans le secteur de la recherche scientifique, c'est déjà de l'argent jeté par la fenêtre.
Alors, ce rapport, Israël Moutala, ne remet-il pas à la surface le fait que l'on devrait faire une autopsie sérieuse des entreprises publiques congolaises aujourd'hui ?
Les entreprises publiques sont malades, elles sont en faillite, elles sont mal gérées.
Ce n'est un secret pour personne.
Et vous avez des gens qui siègent au gouvernement en se comportant d'une manière aussi incivique. Si c'est passé, c'est inadmissible. Ils doivent avoir honte. Et donc, cette question, s'ils avaient un peu de sens d'honneur, un peu d'éthique, ils démissionneraient. Mais comme dans ce pays, vous avez des gens qui ont la grosse gueule, mais qui n'ont pas le sens de l'honneur, ils vont garder leur portefeuille. Et donc, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de valeur. Et c'est dommage, Moi, je dis, nous devons absolument réfléchir en tant que peuple. Quelle est la place, justement, que nous accordons au respect du bien public ? C'est pas possible. Si les gens qui sont censés, justement, incarner l'excellence, incarner la citoyenneté, incarner le patriotisme, incarner la bonne gestion, ne sont pas de modèle, alors le pays n'a aucune chance. Et donc, ce rapport, j'espère, permettra qu'il y ait une prise de conscience et pour qu'il y ait l'amorce d'une transformation radicale en termes de mode de gestion de nos entreprises publiques et nos établissements publics.
François Mpuila, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Ngombonjokwani Augustin, je vous appelle à partir de la ville de Mbandaka. Il est tout à fait étonnant d'apprendre ce qui se passe au fond pour la promotion de l'industrie. La première question que je me pose est celle de savoir si les crédits octroyés par le Fonds pour la promotion de l'industrie ne sont pas soumis à certaines conditionnalités, notamment les chantiers de remboursement. De deux, que prévoit le Fonds pour la promotion de l'industrie en cas de non-remboursement des crédits accordés aux tierces personnes? La dernière question, comment des grandes personnalités ayant des dettes de cette hauteur ont-elles été nommées à des postes de responsabilité tels que la Commission électorale nationale indépendante et à la majorité présidentielle? De toutes les façons, je fais mienne les suggestions et les recommandations de la commission parlementaire pour permettre au Fonds pour la promotion de l'industrie d'entrer en possession de 740 millions de dollars.
Voilà, vous souhaitiez nous parler des procédures d'octroi des crédits. Augustin Ngombo vous en donne l'occasion. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Merci beaucoup. Nous remercions Augustin Ngombo pour sa question et les suggestions qu'il fait. Et ceci me permet que je puisse faire un vrai diagnostic autour de ces montants de 140 millions de dollars. Alain, je crois que cette question a évolué. Parce que lorsque l'interpellation avait fait à l'ADG du FPI, il était dit que c'est l'ADG qui avait détourné cet argent. Et avec les explications, on a compris que le détournement n'était pas dans le chef de M. l'ADG, Et les fonds étaient détenus au niveau de nos promoteurs. Nous voulions préciser aussi que ces fonds sont des fonds garantis. Et ici, nous pouvons tranquilliser nos auditeurs pour leur dire que nous avons des titres de propriété au niveau du fonds de promotion de l'industrie. Mais le problème qui se pose, c'est la lourdeur administrative et judiciaire au niveau de notre pays qui ne permet pas que le recouvrement se fasse dans les conditions requises. À ce sujet, le fonds de promotion de l'industrie fait aujourd'hui le plaidoyer de la loi sur les privilèges du Trésor. Dans la recherche des solutions, comment arriver à recouvrer ces montants importants, une équipe des experts des fonds de promotion de l'industrie ont fait un déplacement au Cameroun où ils ont observé ces dispositifs importants de privilèges du Trésor qui permet qu'on puisse amorcer les processus de recouvrement sans opposition. Parce que lorsque les fonds de promotion de l'industrie essayent de faire les recouvrements, vous allez, on vous envoie des chiens, on ne vous ouvre pas les portes.
C'est des policiers qui vous pourchassent.
Oui. Et lorsque vous êtes sur une opération où vous voulez faire une vente aux enchères pour c'est des interférences, et nous estimons que les problèmes doivent être résolus en dotant les fonds de promotion de l'industrie du privilège des trésors, qui est un pouvoir coercitif pour arriver à obtenir ces remboursements. Il a parlé des échéanciers des remboursements. Les échéanciers existent. Nous faisons les appels d'échéance, nous faisons des mises en demeure, mais lorsqu'il faut passer à l'étape de recouvrement forcé, nous sommes butés à des difficultés. Nous pensons, si aujourd'hui on dotait les fonds de promotion de l'industrie du privilège du trésor, nous croyons qu'on pourrait facilement recouvrir ce montant qui est un stop de 25 ans.
Voilà, Ernest Mpararo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Fidèle Bellonné depuis Kisangani, chef de la province de la Diopo. Nous pensons que c'est une manœuvre bien organisée entre les responsables des FPI et les responsables. Alors à cela, nous demanderons au procureur général de la République à s'impliquer dans les dossiers en collaboration avec les chefs du gouvernement et les présidents des deux chambres du Parlement pour lever leur immunité afin qu'ils subissent la rigueur de la loi comme tous les voleurs se trouvant dans les prisons de la RDC. Sauf que dans notre pays, il y a toujours des situations pareilles, mais sans réaction. La fois passée, le conseiller chef de l'État avait déposé une lettre de la même chose auprès du procureur, mais jusqu'à présent, elle est restée dans les tiroirs, donc des cas pareils doivent interpeller le chef de l'État, puisqu'il ne fait pas aussi le suivi.
En d'autres termes, Ernest Mpararo, ça ne sera pas le premier rapport qu'on aura mis sur la place publique en RDC concernant des détournements. Aura-t-il une suite, ce rapport?
Effectivement, M. Fidèle a raison, étant donné que nous sommes tous devant un fait où la justice ne joue pas son rôle, où la justice n'est qu'active que lorsqu'il y a des opposants ou lorsqu'il y a des journalistes qui écrivent des choses. Mais lorsqu'il y a des personnes qui s'adonnent à des actes de corruption, qui s'adonnent à des actes de détournement, qui s'adonnent à des actes de fraude, nous ne voyons pas cette justice-là. Nous, au niveau de la LICOCO, effectivement, nous avons des dossiers que nous avons déjà introduits auprès des cours et tribunaux, mais dont jusqu'à aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont en enquête. Ils sont en investigation. Ça fait plus de 6 ans, 10 ans, 9 ans, ils sont en investigation. Vous comprendrez avec nous.
Investigation à long terme.
À long terme, effectivement. Très vous comprendrez, terme. M. Fidèle, qui a très très bien dit, il faudrait effectivement que les chefs de l'État puissent s'impliquer activement. Nous le voyons aujourd'hui au Nigeria, où il y a un nouveau président qui fait arrêter des anciens ministres, qui fait arrêter des anciens PDG. Donc, il arrête toutes les responsabilités, toutes les personnalités qui ont mal géré. On les voit en Tanzanie aujourd'hui, il y a un nouveau ministre qui est là, qui a fait arrêter les responsables de la DGI là-bas, qui a fait arrêter d'autres responsabilités en Tanzanie. Nous le voyons dans d'autres États, dans le Cameroun par exemple, où il y a plus de 4 anciens ministres des Finances en prison, il y a des premiers ministres en prison. Donc, il faudrait effectivement que les chefs de l'État puissent prendre les dossiers de corruption en main et dire, écoutez, trop c'est trop, nous en avons assez, il faudrait que demain, à partir du rapport du FPI, que d'abord les ministres qui sont en fonction, qu'on puisse les révoquer. Il jamais après notre émission, que le chef de l'État les révoque et ils retournent l'argent qu'ils ont emprunté ou on saisisse comme notre frère vient de le dire, qu'on saisisse leurs biens parce qu'ils ont hypothéqué certains biens pour avoir cet argent-là.
Alors, parmi les recommandations, la commission parlementaire propose notamment de dépolitiser et rationaliser les conditions d'octroi des crédits et des subventions dans un système gangréné par la corruption. Ernest Ampararo, est-il facile de se défaire des pesanteurs politiques?
C'est difficile. Les politiques peuvent prendre des crédits. Ce n'est pas interdit. Mais pourvu que le montant que vous avez sollicité puisse servir aux besoins ou à l'objet de cette sollicitation-là.
Et qu'il soit remboursé.
Mais lorsque le politique, dont par exemple nous prenons le cas de l'actuel ministre des Hydrocarbures, qui a pris un crédit pour un parc ou un élevage au Katanga, mais depuis qu'il a acheté des matériels, le matériel se trouve encore en Chine. Depuis 2011, nous sommes en 2014, les matériels sont toujours en Chine. Vous prenez par exemple l'actuel ministre Kinkei, qui a pris des crédits, alors qu'il avait un crédit à Tembe, il a payé l'argent de Tembe par les crédits du FPI. Et ces gens-là siègent avec les chefs de l'État. Non, on s'est dit non, nous ne sommes pas dans un État. C'est comme ça que les chefs de l'État qui nous suivent, ils puissent prendre aujourd'hui, à travers, après cette émission, ils prennent des mesures pour faire partir tous ces ministres qui sont au gouvernement et tous ces députés qui siègent au Parlement.
Israël Moutala, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert, on est de Bukavu au sud Kivu. Ce rapport est une très bonne chose. Il est révélateur des problèmes sérieux qui se posent encore dans nos institutions publiques, notamment l'absence totale des contrôles parlementaires pourtant nécessaires pour savoir chaque fois qu'il échoue la gestion plus ou moins exacte de celle-ci. Sinon, on n'en serait pas aujourd'hui à arriver à ce niveau dans le secteur des fonds de promotion de l'industrie.
Israël Moutala.
Oui, il y a une faiblesse du contrôle parlementaire parce que, comme on l'a dit, on a un environnement politique pollué, c'est-à-dire les contrôles parlementaires parfois ne se font pas sérieusement ou rigoureusement, c'est peut-être pour monnaie, mais là, on a vu quand même que ce rapport a été fouillé quand même parce que l'histoire de la cartonnerie, l'histoire de l'usine de plastique et tout le reste, c'est quand même des dossiers qui ont été quand même assez bien fouillés, bien documentés. Et donc, je pense que voilà des rapports qui est clair sur le mode de gestion et le mode de gouvernance globale. Mais moi, je dis encore, c'est un gâchis, parce que je pense qu'il y a plusieurs Congolais qui ont des bons projets bancables, finançables, qui peuvent justement créer de la richesse, engager des Congolais, donner de l'emploi et réduire la pauvreté. Donc, il faut que nous entrions dans un cercle vertueux de la gouvernance. Nous en sommes très loin parce que le paradigme de la gouvernance est mauvaise. Donc, on n'a pas peur de l'État, on n'a pas peur de la loi, on se moque de l'État, il suffit de crier son amour pour emprunter des habits de pseudo-nationalistes pour croire que tout est permis dans ce pays. Et c'est dommage. Mais j'aimerais revenir aussi un peu sur le FMI et dire qu'ils sont en train de solliciter le privilège exorbitant de services publics, et justement c'est une technique en droit public qui donne priorité à l'action publique, à l'intérêt général. Mais je vois que les banques commerciales n'ont pas ce privilège là mais ils ont quand même des taux de recouvrement assez importants. J'ai des amis banquiers qui ont quand même j'ai vu comment est-ce qu'ils ont fait pression, comment est-ce qu'ils font de redressement et tout ça. Bref, j'ai vu quand même qu'ils ont quand même ça paraît plus efficace chez les privés. Mais j'aimerais aussi, parce qu'il y a une étude aussi stratégique, parce qu'il faut une mutation quand même du FPI en banque publique d'investissement et tout. Donc, il y a aussi sa structure administrative qui fait que les gens ont l'impression qu'ils prennent l'argent et qu'ils n'ont pas une obligation de rembourser.
Alors, il y a des auditeurs qui nous écrivent, Adrien de Kananga, ce rapport est douteux à mon humble avis, car non seulement il ne s'appuie sur aucune preuve probante, mais aussi et surtout il n'est pas précis. Albert Kolembela de Kisangani, le président de la République avait annoncé la fin de la récréation, il devrait punir ces gens pour que cela serve de leçon pour les autres, car avec l'impunité, rien ne va marcher. François Moulila, c'est révoltant, ils ne font que remuer le couteau dans la appeler, on en a marre des dénonciations. À quoi devrait-on, doit-on nous attendre au moment où ils sont à la fois jugés partis? Israël Moutala, est-ce que vous comprenez toutes ces frustrations?
La frustration est compréhensible parce que j'ai parcouru le rapport Mayobo sur la fibre optique. Les sanctions jusqu'à aujourd'hui, je n'en vois aucune, ni administrative, ni judiciaire, ni politique. Sur la fibre optique, avec la commission Mayobo, une commission parlementaire également. Donc je pense que ce rapport aussi va moisir dans les tiroirs et il n'y aura aucune sanction.
Alors, ne trouvez-vous pas qu'il faudrait finalement moraliser la vie publique, politique en RDC?
Oui, justement, comment est-ce qu'on moralise la vie publique? Comment est-ce que le peuple devient quand même maître de son destin? C'est en allant au cycle électoral où, justement, on a des élections qui sont régulières, qui sont transparentes, comme ça, on renouvelle la classe politique. Il n'y a pas 36 façons. Et donc, donner le pouvoir au peuple de s'exprimer à date précise, à intervalles réguliers, pour justement ces dirigeants pour désigner des dirigeants qui seront éthiques, qui seront rigoureux, qui n'auront pas d'état d'âme quand il s'agit de gérer la République.
Alors François Mpouila, quelle suite donner à ce type de rapport?
Merci beaucoup Alain. Vous allez me permettre de donner quelques petites précisions.
Très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y s'il vous plaît.
Oui, autour des commentaires qui ont été faits. Lorsque aujourd'hui nous voulons comparer les fonds de promotion de l'industrie et les banques commerciales, je crois que nous faisons une fausse route. Pourquoi? Les banques commerciales financent du très court terme, tandis que les fonds de promotion de l'industrie financent le moyen terme. Et lorsque que financent les banques commerciales, généralement, les besoins en fonds de roulement. Tandis que les fonds de promotion de l'industrie financent les investissements. Et lorsqu'on finance...
Même quand ils sont fictifs.
Oui, ça vous engage vous-même.
Ça engage le rapport.
Vous êtes en train de lire les rapports, moi je ne l'ai pas.
Voilà,
j'essaye un peu de faire la contribution en tant que FPI par rapport à ce que nous connaissons. Et lorsque vous êtes dans le moyen terme, les aléas, les contraintes sont différentes que lorsque vous financez le court terme. Et visitez les rapports de ces banques, visitez les rapports de la supervision bancaire de la Banque centrale, on ne vous montre pas que le taux de recouvrement de ces banques est très élevé. Un avantage des banques, les banques ont des comptes détiennent des comptes de ses clients dans leurs livres. Mais les fonds de promotion de l'industrie, nous sommes une institution financière non bancaire. À ce niveau-là, nous n'avons pas les mêmes moyens de contraintes.
Ne faudrait-il pas que le fonds se réforme en guise de conclusion?
Je crois que le fonds de promotion de l'industrie, là où nous sommes arrivés, nous sommes en train de travailler sur la restructuration des fonds, selon que nous avions reçu des instructions au niveau de la hiérarchie, je parle de notre tutelle. Je crois que dans les jours qui viennent, le management du fonds de promotion de l'industrie sortira pour les autorités ce que nous pensons de fonds de promotion de l'industrie dans les jours qui viennent.
Ernest Mpararo, la moralisation de la vie publique ou politique en RDC est-elle possible?
Effectivement, oui. Mon frère
Israël Moutala.
Israël a dit, il faut d'abord qu'il y ait des élections pour changer la classe politique. Et il faudrait que nous ayons des leaders qui voient qui n'ont qu'une seule priorité, lutter contre la corruption. Parce qu'en luttant contre la corruption, vous mobiliserez beaucoup de ressources et ces ressources seraient bien distribuées pour financer effectivement le développement. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous pensons que au niveau institutionnel, nous devons avoir réformé nos textes. Vous voyez? Donc, il y a nos codes pénals qui doivent être réformés. Il y a qu'on doit voter d'autres textes légaux. On doit mettre en pratique la Convention des Nations Unies contre la corruption, dont la RDC a ratifié. Donc, tous ces instruments doivent permettre à ce que le nouveau leadership que nous aurons puisse en appliquer. Mais sans sanction, sans la contribution de la justice, on n'y parviendra
jamais. C'est peine perdue.
Effectivement. Et c'est comme ça que nous interpellons tout de suite là, le procureur général de la République. Il ne doit pas siéger à son bureau là de l'INSS. Ils doivent demander déjà aux inspecteurs, envoyez-moi ces rapports-là. et commencer à instruire. Il n'est pas là pour attendre qu'on puisse aller déposer les rapports.
Donc il devait s'en saisir d'office,
c'est sa conclusion. Effectivement, il doit s'en saisir d'office et il doit interpeller, que ce soit les dirigeants du FPI, que tous ces ministres doivent être interpellés. Il ne demande même pas qu'on ait une autorisation du chef de l'État.
Merci. Israël Moutala, quelle suite devrait-on donner à ce rapport, selon vous?
De suite politique, de suite administrative et de suite judiciaire, inéluctablement. Voilà, pour respecter le Congolais, pour respecter l'argent des Congolais, il faudra absolument qu'il y ait de suite de ces trois ordres.
Alors d'un côté, on fustige la faiblesse du contrôle parlementaire, d'un autre, on voudrait que la justice fasse son travail. Ne sommes-nous pas dans l'embarras là?
Non, parce que le travail, c'est pas incompatible, le travail de la commission parlementaire donne justement des matériaux pour le travail de judiciaire, et même pour la sanction administrative, parce que pour sanctionner, il faut avoir des faits. Et là, nous avons des documents qui peuvent constituer une base solide de travail.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Fin de cette émission. Vous avez des remarques et des suggestions, écrivez-nous à dec@radiokapi.net. Au revoir.